L'actualité des Alpes du Sud et le message déchirant des parents du petit Émile.
L'enfant disparu depuis juillet au Vernet dans les Alpes-de-Provence fêterait aujourd'hui ses 3 ans. Rendez-nous-le, martèlent les parents auprès de l'hebdomadaire catholique Famille Chrétienne.
Aucune fausse alerte à la bombe n'est prise à la légère dans les Alpes de Haute-Provence.
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, 23 fausses alertes ont été relayées dans les établissements scolaires. On ne prend aucun risque, explique Franck Lacoste, directeur du cabinet du préfet, alors que les collèges Jean Giono et Mondor à Manosque ont une nouvelle fois été évacués hier matin.
Les élus locaux sont-ils prêts à prendre part à une nouvelle politique climatique ?
Ils ont toute leur place à jouer, selon Philippe Rossello, le président du Grec Sud, groupe régional d'experts sur le climat, qui rendra son étude demain. Elle a porté sur les changements climatiques sur 4 communes alpines, Barcy-Lonnette, Lardy-et-Valença, Esparron et Vitrolles.
Plus de 340 personnes pourront être mobilisées en cas de chute de neige dans les Hautes-Alpes.
Des chiffres divisés par 2 ces dernières années en raison des hivers plus doux, 2 fois moins de sel sur les routes, 2 fois moins de coûts également, mais toujours le même appel pour éviter les naufragés de la route. Équipez-vous.
Et c'est Neige Sino qui remporte la 36e édition du prix Goncourt des lycéens.
La Walpine voit une deuxième consécration après le prix Femina pour son livre Triste Tigre. Météo.
Avec pour cette journée de vendredi un temps généralement bien ensoleillé le matin sur les Hautes-Alpes, parfois un petit voile d'altitude et puis une perturbation peu active qui va arriver par le nord en cours d'après-midi. Côté température, les maxi 9 à 14 degrés en vallée pour les Alpes de Haute-Provence. Là aussi, c'est clair avec un petit voile nuageux quand même qui pourrait ternir l'éclat du soleil. Des températures de 13 à 18 degrés, mais c'est demain où les températures vont largement chuter, on annonce des maxi de 4 à 9 degrés. À la une de l'actualité, le message déchirant des parents du petit Émile.
L'enfant qui fête aujourd'hui ses 3 ans est porté disparu depuis le 8 juillet dernier dans le hameau du Haut-Vernet. L'enquête se poursuit, mais les pistes ne donnent rien. Les parents du jeune garçon ont diffusé un message dans Famille Chrétienne, l'hebdomadaire catholique. Marie, la maman, explique avoir la certitude que son fils a été victime d'un enlèvement ou d'un accident. « Nous en appelons à votre cœur », lance-t-elle aux personnes qui savent ce qui est arrivé à Émile.
Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le-nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le-nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve. Rendez-nous Émile.
La famille du garçon a une nouvelle fois lancé un appel à la prière sur les réseaux sociaux 2 jours avant donc l'anniversaire de l'enfant.
Dans le reste de l'actualité, 23 fausses alertes à la bombe dans des établissements scolaires depuis la rentrée de novembre. Les équipes éducatives sont à bout de souffle.
Les équipes éducatives des Alpes d'Haute-Provence, puisque 2 collèges manosquins ont particulièrement été touchés par des mails malveillants. Mondor et Jean Giono évacués une nouvelle fois hier matin. Les services de l'État se disent pleinement mobilisés quant à ce dossier. Aucune alerte n'est prise à la légère, explique au micro Alpe 1 Franck Lacoste, le directeur du cabinet du préfet des Alpes d'Haute-Provence, Marc Chapuis.
On active immédiatement le PPMS du chef d'établissement en lien avec les forces de sécurité jusqu'à la levée de doute. Et tant que la levée de doute n'est pas réalisée, les élèves évidemment ne réintègrent pas l'école. Chaque commune concernés déclenchent aussi de son côté le plan communal de sauvegarde, donc c'est-à-dire qu'ils mettent les élèves en sécurité dans des lieux spécifiques d'accueil, par exemple un gymnase ou une salle polyvalente, même si ce sont des canulars, ça je le redis, le préfet insiste fortement là-dessus, chaque alerte est une nouvelle alerte distincte de la précédente et est traitée avec le même degré de sérieux par toutes les équipes. Donc ce qui veut dire on ne prend aucun risque.
Et pour perturber le moins possible les enseignements, Franck Lacoste précise qu'un nouveau protocole a été défini. Il permet de détecter plus rapidement les alertes en 45 minutes. Chaque chef d'établissement peut alors contacter les référents sécurité pour procéder à cette levée de doute. Les services de l'État et le directeur académique des Alpes de Provence ont donné pour consigne à chaque chef d'établissement de porter plainte après ces fausses alertes. Des enquêtes sont en cours, ouvertes par le parquet de Digne-les-Bains.
Le maire de Châteauroux-les-Alpes devant la justice le 4 avril prochain.
Jean-Marie Barral et son fils avaient été placés en garde à vue cette semaine pour des soupçons de braconnage, puis présentés à un magistrat du parquet hier matin. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, le domicile de l'édile avait déjà été perquisitionné en septembre. Des armes avaient été saisies, son fils placé en garde à vue avant d'être remis en liberté.
Après les Alpes de Haute-Provence, c'est au tour des Hautes-Alpes d'être touché par une retournite.
Des panneaux d'entrée de communes retournés à Merlette, Saint-Julien-en-Champsaur ou encore les Meuniers, action symbolique de la FDSEA et des JA dans les Hautes-Alpes. Depuis le début de semaine, partout en France, les agriculteurs se mobilisent sous la bannière « Pas de transition sous pression ». Ils demandent à Emmanuel Macron qu'il tienne sa parole et donne à l'agriculture française les moyens d'être pleinement actrice dans les enjeux alimentaires énergétiques et environnementaux.
Quelle solution face au changement climatique pour nos villages? 4 communes alpines ont donné lieu à une étude du Grec Sud.
Le groupe régional d'experts sur le climat de la région rendra ses résultats demain à Lardier et Valença. C'est à l'invitation du collectif Et si nous. Les experts ont travaillé en profondeur sur l'impact du réchauffement climatique sur 4 villages, Barcilonnette, Esparron, Vitrolles et Lardier et Valença. Philippe Rossello, le président du Grec Sud, ne fera pas que constater, mais aussi proposer des pistes d'adaptation sur la gestion de l'eau, la production agricole ou encore la forêt et les loisirs, des pistes surtout présentées aux élus.
Après, il est toujours difficile de pouvoir mobiliser les élus pour leur en parler et ensuite de leur prendre de leur temps pour parler d'adaptation, d'atténuation, alors que c'est essentiel. On sait ce qu'on doit mettre en place. Le problème, ce sont des problèmes politiques, des problèmes financiers, et parce que la transition coûte de l'argent. Mais le coût de l'inaction coûtera plus cher que l'action. Donc, il va falloir trouver les solutions de l'échelle nationale à l'échelle locale pour mettre en place cette transition coûte que coûte, parce que sinon les impacts du changement climatique seront bien trop graves et on ne pourra pas y faire face si on ne fait rien aujourd'hui.
Et donc rendez-vous demain à la salle des fêtes de Lardier et Valença à 15h. La présentation sera suivie d'un débat ouvert à tous.
Et autre question dans l'actualité, comment parvenir à l'égalité professionnelle?
Un laboratoire d'idées Egalab a été mis en place depuis un an dans les Hautes-Alpes, porté par la Cité des métiers de Marseille, la région et l'État. Il doit répondre aux enjeux d'inégalité salariale, d'organisation du travail ou encore de mixité des métiers. Ce laboratoire a réuni 3 à 4 fois dans l'année une cinquantaine de personnes, des syndicats d'employeurs, des chambres consulaires ou encore des services de l'État. Pour le pas vraiment d'action concrète, mais une dynamique qui s'enclenche. Johanna De La Rosa, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes.
Il y a une vraie volonté de travailler ce sujet. Donc, par exemple, on constate que ce sont quand même souvent les femmes qui se mettent à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants, par exemple, et ça a un impact sur leurs revenus et plus tard sur leur retraite. Ça peut être des problématiques. Il y a aussi la problématique qui peut être très forte dans les Hautes-Alpes, c'est la question de la mixité des métiers. Dans les Hautes-Alpes, on a des métiers dits en tension, par exemple, dans le domaine du bâtiment et aussi dans le domaine du soin à la personne. La mixité des métiers, c'était une des thématiques qu'ont voulu travailler les membres, plutôt à travers un outil qui permettrait à des plus jeunes ou à des personnes en recherche d'emploi d'identifier des rôles modèles, des femmes dans des métiers dits masculins ou des hommes dans des métiers dits féminins, finalement, pour pouvoir se projeter sur ces métiers-là, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui.
Et en 2024, ce laboratoire d'idées pour l'égalité professionnelle se poursuivra.
L'hiver, les routes, les Hautes-Alpes et comme chaque année, le triptyque Vinci Autoroute, d'Irmède et département ont présenté le plan de viabilité hivernale.
Avec quelques chiffres, le conseil départemental sera en capacité de mobiliser plus de 340 personnes, dont 170 agents d'exploitation, 37 saisonniers et 135 déneigeurs volontaires. 37 chasse-neige, 11 saleuses, une fraise à neige, 2 tracteurs agricoles et 4 usines à Saumur, réparties également entre les 6 antennes techniques. Le sel utilisé sur les chaussées, justement, il y en a 2 fois moins, de 7000 tonnes, on est passé à 3500. Le coût de la viabilité hivernale a lui aussi été divisé par 2 en l'espace de 6 ans. De pratiquement 3 200 000 euros en 2017, il est passé à 1 600 000 euros en 2023 en raison des hivers plus doux. Quant au national, la RN94 de Gap à Montgenèvre et la RN85 de Gap à Grenoble, la Dirmet s'astreint à retrouver des conditions normales 6 heures après la fin de la précipitation neigeuse. Encore faut-il que les usagers de la route y mettent du leur. Maxime Lecomte, sous-préfet du département, rappelle que le port des équipements spéciaux est obligatoire depuis le 1er novembre.
L'enjeu, il est double. et on va demander un travail à l'État, au département, au service public pour assurer des conditions de circulation adaptées pour tout le monde et éviter, comme on peut dire, des naufragés de la route, c'est-à-dire une prise en charge dans l'urgence, même si elle peut être mise en œuvre, mais surtout l'éviter en s'assurant des conditions et en assurant des conditions d'utilisation satisfaisantes des routes. J'indiquais que ce travail est double, puisqu'au-delà des efforts qu'on va demander aux services publics, l'effort et les injonctions, les obligations pèsent aussi sur les usagers de la route, avec l'obligation de porter soit des chaussettes, soit des chaînes, ou alors d'utiliser des pneus hiver, les 4 pneus hiver, pas simplement 2, mais les 4, et pour les véhicules légers et pour les poids lourds, avec les pneus neige et les chaînes pour ces poids lourds. On compte sur la population. C'est une obligation pour assurer leur sécurité, c'est ça qu'il faut entendre. L'idée, c'est d'assurer la sécurité de tous, la leur, celle des autres usagers, des personnes qui interviennent. Et je pense qu'on peut compter sur tout le monde pour comprendre ce message et l'appliquer sans besoin de sanctions derrière.
Une obligation, mais sans sanction, hein, ce que regrette Marcel Cana, vice-président en charge des infrastructures routières au sein du département. Une obligation donc jusqu'au 31 mars. Notez qu'en début de semaine, les nouveaux garages du centre d'entretien et d'intervention de la DIRMED ont été inaugurés à Saint-Bonnet-en-Champsaur, des garages en bois Medinalp avec de la place pour 4 véhicules d'intervention.
Et c'est Neige Sino qui a remporté la 36e édition du prix Goncourt des lycéens ce jeudi.
Née à Vars en 1977, l'autrice au Alpine avait remporté le prix Femina. C'était le 6 novembre. C'est donc la deuxième consécration pour son livre Triste Tigre, paru aux éditions Paul, vendu à plus de 80 000 exemplaires. Son troisième roman raconte les viols qu'elle a subis entre ses 7 et ses 14 ans par son beau-père dans le Briançonnais. Elle l'avait finalement dénoncé à l'âge de 21 ans, un beau-père qui avait écopé de 9 ans de prison.
Alpe 1 Sport. Avec le hockey sur glace, Briançon-Rouen, un match qui trouve sa conclusion dans les powerplays.
Défaite sévère pour les Alpins qui affrontaient hier soir lors de la 19e journée de Ligue Magnus les Dragons de Rouen, des Normands qui ont repris leur fauteuil de leader au classement et qui ont clairement montré une supériorité en saisissant toutes les occasions des powerplays. Victoire 6-2. L'équipe alpine aura subi l'absence de plusieurs joueurs en raison de blessures. Lucas Bonnardel, Dimitri Tillet, Thomas Rabhi et Robin Colomban. Notez tout de même la sérieuse prestation d'Eliott Lévesque, le portier de 20 ans qui enregistre 45 arrêts pour son second match en professionnel au classement Briançon. Et 11e, une 19e journée de championnat qui se poursuit ce vendredi pour Gap. Les Rapaces se déplacent chez la lanterne rouge de la Magnus Anglette. L'occasion pour les hommes d'Éric Blé d'enchaîner 3 points d'une nouvelle victoire pour se sortir de la zone de relégation.
Et puis le trail de Haute-Provence Winter qui fait le plein.
Très belle fête sportive qui s'annonce pour demain sur la montagne de Lure avec 3 distances, 40 km, 25 km et enfin l'épreuve la plus courte, 13 km. Toutes les courses prennent le départ de la station de Lure, la plus ancienne station de ski du département des Alpes-de-Provence à Saint-Étienne-les-Orgues. Cette édition est la dernière étape du Challenge des Trails de Provence.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.